Bonsoir à tous, bienvenue à la station Haussaune, bien connue des Bordelaises et des Bordelais. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Gabriel Martinez-Gros pour présenter cet ouvrage « L'Empire islamique du 7e au 11e siècle » paru chez Passé Composé, tout récemment sorti. Alors c'est un ouvrage assez ample, d'abord par sa couverture chronologique qui couvre de plusieurs siècles finalement, qui sont ici traités un peu d'un seul tenant, une sorte de tour de force. Il y a dans cet ouvrage, je crois, deux tours de force. Il y a d'abord l'ampleur chronologique sur la période, et puis il y a aussi, à mon sens, un second tour de force, c'est de considérer l'Empire islamique dans l'ensemble de ses versants, dans ses facettes, qui va bien sûr de l'Occident jusqu'à l'Orient, le plus éloigné et souvent le moins connu en France, notamment de la civilisation islamique, si je peux employer cette formule. Alors, je voudrais tout d'abord vous proposer de répondre à une question un peu simple et un peu redoutable. Finalement, ce livre, est-ce qu'il ne faut-il pas avoir énormément travaillé pour écrire un livre dans lequel on se risque à la fois à embrasser une période aussi longue, finalement, et une géographie aussi large?
Je pense que vous avez tout à fait raison, à la fois pour des raisons évidentes de prudence universitaire et aussi parce qu'on se sent moins assuré, tout simplement. C'est un livre, c'est un genre de livre qui est visiblement, qui ne peut être que le fait que d'un universitaire chevronné qui a passé l'essentiel de sa carrière à enseigner et qui a retiré beaucoup de l'enseignement, c'est clair. Il faut dire aussi que c'est un livre qui m'a été commandé, tout simplement, et souligner les mérites de l'éditeur, c'est-à-dire Nicolas Grappaillin, qui est pas très loin, en fait, dans cette salle. Mais c'est vrai que c'est presque un livre, et c'est assez rare pour être souligné, j'en ai écrit tout de même un certain nombre d'autres déjà, c'est presque un livre qu'on a écrit en commun. Alors c'est aussi un livre que j'ai écrit à la suite de la question d'agrégation sur l'islam, la première question sur l'islam proprement dit inscrite à l'agrégation d'histoire depuis les origines de cette agrégation d'histoire. On avait souvent eu des questions sur l'Occident et l'islam, enfin, tous les 40 ans à peu près. L'agrégation d'histoire prend son temps, vous savez, c'est une vénérable institution. Mais une question sur l'islam proprement dit au Moyen-Âge, ça n'avait jusque-là jamais été proposé. Et donc, comme c'est moi qui avais proposé la question, j'ai essayé de réfléchir, comme vous l'avez dit, globalement à l'ensemble du monde islamique, alors que la plupart du temps, il est, comme la plupart de nos disciplines universitaires, extrêmement segmenté, extrêmement morcelé, et que la partie à laquelle nous intéressons, nous, public français, en général, c'est le monde arabe, bien sûr, et même plus précisément le Maghreb et l'Espagne, où nous avons une véritable présence, une véritable force de frappe, hein, en particulier sur l'Espagne, sur l'Andalous, grâce à la Casa Velázquez. Mais les autres régions du monde musulman, disons à l'est de la Syrie, sont souvent beaucoup plus négligées par la recherche française et au contraire beaucoup plus privilégiées par la recherche anglo-saxonne. J'ai essayé de réunir l'un et l'autre, évidemment, dans ce livre. Et je dois dire, sans attaquer personne et sans forfanterie, que l'entreprise n'existait pas. J'espère qu'elle est réussie, mais vous ne trouverez pas de livre qui vous présente en 250 pages les grandes lignes de l'ensemble du monde islamique pendant ces quatre siècles, hein, entre 7e et 11e siècle, ailleurs. Alors, peut-être dire aussi pourquoi 7e, 11e siècle, d'ailleurs.
C'est vrai. Le choix de la chronologie.
Le choix de la chronologie. 7e siècle, c'est évidemment tout simplement les origines de l'islam, hein, bien sûr. Je commence à la mort du prophète, ce qui m'épargne les infinies polémiques autour de la vie, de la personne, voire de l'existence même de Mohammed. Hein, donc, je commence en 632 aux conquêtes. Et je vous dirai aussi peut-être un peu plus tard pourquoi je considère que c'est l'empire qui crée la religion musulmane et non pas le contraire, comme on le penserait a priori, c'est-à-dire un prophète qui crée une religion, qui crée un empire. Je pense que le prophète a créé les conditions d'une extraordinaire expansion, d'extraordinaire conquête, et que ce sont ces conquêtes et l'empire qui en est issu qui ont créé la religion telle que nous la connaissons, en tout cas aujourd'hui, y compris dans ces divisions. XIe siècle, fin XIe siècle, c'est tout simplement le moment où les Arabes perdent le contrôle de cet empire, où ils sont relativement marginalisés, en tout cas dans les fonctions régaliennes, dans les fonctions militaires et financières qui identifient l'État. Ils sont rejetés, en quelque sorte, c'est ce que dit mon cher Ibn Khaldoun, sur lesquels nous reviendrons à un moment ou à un autre, hein. Ils sont rejetés dans les fonctions d'organisation, d'élaboration cléricale, comme on aurait dit en Occident, c'est-à-dire d'élaboration intellectuelle ou d'élaboration religieuse, hein, puisque l'essentiel de l'activité intellectuelle est en lien direct en général, que ce soit dans l'Occident médiéval ou dans l'islam médiéval, avec la religion. Voilà, hein, c'est le moment où des peuples nouveaux, entre guillemets, c'est l'expression désormais consacrée, hein, c'est-à-dire les Turcs pour l'essentiel en Orient, des Berbères au Maghreb, voire même, pourquoi pas, en tout cas à mes yeux et aux yeux d'Ibn Khaldoun, certainement, les Francs. Bien sûr, les Francs ne sont pas, c'est-à-dire les Européens. Les Européens ne sont évidemment pas musulmans, mais ils font partie de cette poussée des, entre guillemets, peuples nouveaux qui éliminent, qui font sortir les Arabes de la scène au XIe siècle et qui marquent la fin de ce livre.
Alors, effectivement, cet ouvrage offre une vision panoramique, finalement, de l'islam médiéval. Le très beau jeu de cartes qui est au cœur est aussi un beau travail d'édition. Et on a senti là que vous avez réussi à faire obtenir de très belles cartes dans ce très bel ouvrage. Je voudrais revenir sur la composition de l'ouvrage qui révèle aussi le projet, en fait. Vous offrez deux parties dans cet ouvrage, une première sur les histoires de l'islam, voilà, et une seconde partie dans laquelle vous entrez plus chronologiquement, vous découpez différentes vies, les quatre vies, finalement. Est-ce que, finalement, cette séparation entre, d'une part, l'écriture de l'histoire, l'écriture où vous présentez les sources, Ibn Khaldoun, vous présentez Tabari, vous présentez un certain nombre, plusieurs auteurs, et ensuite d'étudier la chronologie, est-ce que c'était une manière d'appréhender l'histoire de l'islam différemment, en posant cette question que beaucoup aujourd'hui se posent, est-ce que ça n'est pas davantage la manière d'écrire l'histoire qui a fait l'histoire, y compris de l'islam lui-même, en fait.
Voilà, c'est pas une question finalement limitée à l'islam, mais vous la connaissez vous-même fort bien, évidemment. C'est-à-dire, on se penche effectivement de nos jours de plus en plus sur l'écriture de l'histoire. Qu'est-ce que c'est qu'être un historien ? Peut-être est-ce un signe d'ailleurs de faiblesse relative, hein, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal, c'est ce que ça veut dire, à écrire l'histoire. Et si on a probablement de plus en plus de mal à écrire l'histoire, c'est qu'on a de plus en plus de mal à tracer un avenir. Hein, c'est-à-dire que pendant les deux derniers siècles, puisque en gros l'histoire telle que nous la faisons naît au début du XIXe siècle, hein, et sous des plumes allemandes en général, hein, il faut le dire, pendant les deux derniers siècles, l'écriture de l'histoire a été commandée par une certaine vision du futur, une certaine vision aussi, disons-le, du progrès universel des choses, qui rendait intelligible le passé. Le passé avait préparé le présent et il avait préparé l'avenir. Et une large part à la fois des débats de l'histoire et des inflexions, des interprétations de l'histoire tenait à la modification de ce qu'on imaginait de l'avenir. C'est-à-dire que l'avenir imaginé rendait un autre passé. Un autre avenir rend un autre passé. Hein. J'ai essayé dans l'introduction en particulier, mais aussi dans les premiers chapitres, de dire d'où je parlais, comme on disait dans les années 70, mais je vois que quelques-uns ici ont dû les connaître. Donc, au nom de quoi, dans quelle situation concrète, contemporaine, je suis pour parler du monde islamique médiéval. Parce que l'historien parle toujours d'après la situation contemporaine qu'il vit. Hein. C'est à partir de là qu'il déduit, à tort ou à raison, hein, qu'il examine avec le plus de précautions possibles, certainement, mais qu'il examine le passé, même le plus lointain. Autant dire que dans le cas de l'islam, des événements qui apparemment de l'islam médiéval, des événements qui apparemment n'ont rien à voir avec cet islam médiéval, comme je ne sais pas moi, la guerre d'Algérie, comme évidemment la révolution iranienne, comme bien sûr le 11 septembre 2001, comptent. Et la plupart du temps, l'un des problèmes des historiens, c'est qu'ils ne le disent pas, c'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de mettre au clair d'où ils parlent, hein, quelle place ils vont accorder à ces événements contemporains qu'ils ont eux-mêmes vécus, qui les ont marqués et qui ne peuvent pas ne pas marquer, même s'ils sont spécialistes, leur vision du monde islamique. Hein. Ils n'essayent pas, la plupart du temps, de mettre au clair ce qu'ils en pensent. Et j'ai essayé de le faire. Je pense que un des points importants, c'est que nous-mêmes occidentaux sommes peut-être à la fin, c'est mon impression, hein, c'est à partir de cette impression finalement que j'ai écrit ce livre, nous sommes à la fin d'un cycle historique, d'un cycle d'hégémonie, de guidance en particulier intellectuelle sur le monde, que nous en sommes aujourd'hui peu à peu dépouillés, que nous le ressentons très mal d'ailleurs. Je pense qu'une partie des crises de nos sociétés sont directement issues de cette difficulté à imaginer des progrès en cours, à imaginer un passé glorieux, à imaginer, oui, un futur glorieux et donc un passé glorieux par là même. Et donc nous sommes en un temps d'hésitation, je pense, hein, dans lequel j'écris. Voilà, hein, j'essaye d'écrire cette histoire de l'islam. Oui. Je ne sais pas si et j'ai c'est... répondu à vos questions.
Si, très bien. Et d'ailleurs, c'est en effet cette sortie de cette grande période de conquête, d'hégémonie finalement, qu'a eu l'Europe ou le monde occidental au sens large du 18e au 19e siècle, qui vous invite à revenir sur l'écriture de l'histoire en terre d'islam même.
Voilà.
Et c'est pour ça que vous reprenez et que finalement, beaucoup d'islamologues ont parlé d'Ibn Khaldoun, mais vous en parlez différemment. Et donc, est-ce que vous pouvez un petit peu présenter celui qui est l'un des plus grands passeurs, finalement, de cette histoire vers nos sociétés contemporaines et occidentales ?
Voilà.
Finalement, comment vous relisez Ibn Khaldoun différemment, finalement, de vos prédécesseurs, et ce qui, finalement, permet de singulariser, en fait, votre ouvrage ?
Mes prédécesseurs avaient une idée simple et qui, dans le monde où ils vivaient, était probablement juste, c'est que Ibn Khaldoun avait été génial pour son temps, mais que quand même c'était un auteur du XIVe siècle et qu'un auteur du XIVe siècle n'a à peu près plus rien à dire, évidemment, sur le monde contemporain. C'est une pensée simple dans laquelle nous vivons encore, hein, tout à fait spontanément. Mais si on considère que les deux derniers siècles ont été une parenthèse éblouissante par les progrès indiscutable, aujourd'hui contesté, parce qu'on conteste tout, mais enfin, ça n'est pas contestable. Hein, si on considère ces deux derniers siècles éblouissants qui ont multiplié la population mondiale, ou qui auront multiplié en 2050 la population mondiale par 10, qui auront multiplié la richesse mondiale par 50 ou 60, en fait, dans des proportions inouïes. Jamais vu auparavant dans l'histoire, jamais vu évidemment auparavant dans l'histoire. Si on considère que ces deux siècles ou deux siècles et demi sont désormais proches de leur fin, alors il y a quelque chose d'autre qui ressurgit derrière cette lumière si éblouissante qu'elle en cachait toutes les autres, c'est-à-dire d'autres visions du monde, et en particulier celle d'Ibn Khaldoun, qui peut nous être utile. Alors, qu'est-ce qu'il dit je résume ici presque 20 ans. Je connais Ibn Khaldoun depuis presque 20 ans, si j'ose dire, et je l'ai beaucoup fréquenté. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est probablement, tout bêtement, le seul penseur de la peste. Parce qu'en fait, il vit à l'époque de la peste. Hein, il vit entre, il naît en 1332, il meurt au Caire en 1406, et toute sa vie, pratiquement, 16 ans, il a 16 ans en 1348 lorsque la peste arrive à Tunis, où il vit alors, toute sa vie est traversée par la peste et par ses répliques, c'est-à-dire par l'extraordinaire dépopulation du monde islamique, qui probablement, lui qui est un haut fonctionnaire, on dirait aujourd'hui, et un haut fonctionnaire ne voyait aucune relation avec le monde contemporain, un haut fonctionnaire héréditaire. Son grand-père était déjà ministre, son père était ministre, ses ancêtres étaient déjà au premier rang de l'Andalous, en fait, de la société andalouse. Lui qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche et qui est né dans le pouvoir, hein, dans l'administration du pouvoir, en particulier l'administration civile, hein, en l'occurrence, mesure que si les hommes disparaissent, il n'y a plus rien. Et finalement, le pouvoir, ça repose sur quoi ? Le pouvoir, ça repose fondamentalement sur l'impôt. Et s'il n'y a plus personne pour payer l'impôt, ce qui est le cas lorsque les foules disparaissent, des foules disparaissent sous l'effet de l'épidémie, s'il n'y a plus personne pour payer l'impôt, il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'État. Et il en déduit par, je crois, si je peux me permettre d'interpréter la genèse de sa pensée, ce qui est toujours un peu difficile, il en déduit par opposition, par contraste, ce qu'est l'État dans sa normalité. L'État dans sa normalité, c'est d'abord un mécanisme de collecte de l'impôt. Cette collecte de l'impôt permet la concentration, la mobilisation de la richesse en un point, qui est généralement la capitale, et au profit, bien sûr, des élites dirigeantes. Et cette concentration de la richesse attire la concentration des compétences et la création, comme il dit, lui, de nouveaux métiers, c'est-à-dire ce que nous dirions, nous, de nouveaux gains de productivité. Pour reprendre l'exemple éternel qui est encore dans ce livre, je m'excuse de choisir toujours le même. Dans les campagnes, dit-il, tous fabriquent leurs propres outils de bois, et bien sûr, ils les fabriquent mal, parce que la plupart du temps, ils ne sont pas très menuisiers. Dans les petites villes, vous commencerez à avoir des ouvriers qualifiés du bois qu'on appelle des menuisiers. Et dans les grandes villes, vous aurez des charpentiers capables de construire la charpente de Notre-Dame à Paris au XIIIe siècle, ou capables peut-être de produire les œuvres d'ivoire absolument merveilleuses du califat de Cordoue à Cordoue au Xe siècle. C'est-à-dire que vous avez une spécialisation à partir des mêmes métiers, parce que les tailleurs d'ivoire ou les imagiers sont les mêmes que ceux qui taillent le bois. Vous avez une spécialisation qui permet des gains de productivité, comme nous dirions aujourd'hui, qui se reporte ensuite sur l'ensemble de la société et qui bénéficie à l'ensemble de la société. Sauf que cette société, pour payer l'impôt, car l'impôt est la base de l'accumulation de richesses dans une société agraire où il n'y a pas d'autres créations, pratiquement, il n'y a pas d'autres progrès de productivité ni de progrès de richesse, pratiquement, l'impôt est payé par des gens qui sont désarmés. Il faut donc désarmer les populations. Simplement, quand vous avez désarmé les populations, vous vous trouvez devant un autre problème, qui est que ces populations désarmées sont très vulnérables, puisque vous leur interdisez de se défendre, alors que, grâce à votre système, elles sont de plus en plus prospères et riches. Donc vous avez des prospères et des riches qui sont totalement désarmés et totalement vulnérables, et à côté, évidemment, des tribus, des loups, disait un spécialiste anglais d'Ibn Khaldoun qui s'appelait Gellner, qui avait choisi la métaphore des loups et des moutons. Donc vous avez des troupeaux de moutons de plus en plus gras et de plus en plus nombreux, et autour des loups qui n'appartiennent pas au territoire de l'État et qui sont évidemment extrêmement dangereux pour les moutons. Donc vous êtes obligé, c'est le dernier point de la théorie d'Ibn Khaldoun, vous êtes obligé d'acheter quelques loups, hein, d'acheter quelques tribus qui deviennent des chiens loups, c'est-à-dire des chiens défenseurs du troupeau, et qui en même temps prennent très rapidement l'avantage sur le troupeau, le dominent très rapidement, comme d'ailleurs les chiens loups auprès des troupeaux, c'est-à-dire que très rapidement ce sont ces gens en charge qui viennent des marges tribales de l'État, mais qui sont en charge des fonctions militaires dans l'État, qui s'emparent des fonctions de souveraineté, évidemment. Donc vous avez des États que j'ai appelés moi impériaux dans un livre précédent et qui sont la Chine répond à ce pendant l'essentiel de son histoire répond à ce schéma. L'Inde en particulier à partir du moment où elle est islamique répond à ce schéma. Le monde islamique en général répond à ce schéma. L'Occident ne répond pas et c'est ce qui nous trompe évidemment sur l'étendue de ce de la pertinence de ce schéma, c'est-à-dire un schéma où des alors on utilise le noble mot de allochtones, c'est des étrangers hein, pour tout dire, dominent en fait l'État au détriment ou à l'avantage, comme vous voulez, de l'immense majorité de la population qui est réduite aux tâches productives, hein, que ce soit des tâches productives intellectuelles comme celui et celle d'Ibn Khaldoun ou des tâches productives matérielles, bien entendu. Hein.
Ce faisant, est-ce que Ibn Khaldoun ici ne fait pas en fait l'histoire ou l'anthropologie des empires?
Absolument, absolument. Il fait l'anthropologie, en particulier de l'empire islamique qu'il connaît le mieux.
Mais auquel, finalement, le continent occidental ou l'hégémonie européenne, cette grande période du XVIIIe au XIXe siècle, n'aurait jamais réussi à finaliser.
Oui, finalement, parce que l'Occident vient d'une autre histoire. C'est probablement de là que vient une partie de l'exception occidentale et de sa réussite, d'ailleurs, que Ibn Khaldoun ignorait complètement, bien entendu. C'est-à-dire qu'à la chute de l'Empire romain, qui, dans ces derniers siècles, suit parfaitement le schéma khaldounien. Vous avez des Goths, des Francs, etc., qui sont engagés dans les armées de l'Empire et qui exercent les fonctions jusqu'au point de démembrer l'Empire, de le disloquer finalement, enfin, bon, peu importe. Mais à partir du moment où l'Empire romain disparaît comme structure politique, comme structure d'État, alors il se forme tout à fait autre chose. Alors Ibn Khaldoun aurait dit « si vous n'avez pas d'Empire, vous avez des tribus ». Hein, vous restez à un niveau tout à fait élémentaire de prospérité, puisque vous n'avez pas le mécanisme de l'impôt, et l'impôt disparaît en effet quasiment dans le haut Moyen-Âge occidental, vous n'avez pas le mécanisme de l'impôt qui permet le rassemblement de la richesse initiale. Hein, sans ce mécanisme de l'impôt, il n'y a rien. Or, l'Occident dément complètement Ibn Khaldoun à partir, peut-être pas au Haut Moyen-Âge, à la limite ça peut marcher, on peut considérer qu'effectivement le Haut Moyen-Âge manifeste cette relative pauvreté urbaine en particulier, ou cette absence de mobilisation initiale du capital que Ibn Khaldoun décrit lorsque l'impôt n'existe pas, hein, lorsque l'État n'existe pas, enfin il ne décrit rien, il dit que l'impôt est la base de l'État, il ne décrit pas le non-État, bien entendu, hein, mais peut-être qu'au Moyen-Âge, on peut considérer que le schéma est encore juste, mais à partir du Xe siècle, XIe siècle, ça ne marche plus du tout en Occident. C'est-à-dire que l'Occident, pour des raisons qui sont finalement mystérieuses, y compris pour moi qui suis trop habitué à la théorie khaldounienne, l'Occident arrive à amasser une forme de capital et à trouver des formes politiques qui ne sont pas impériales. Ce sera la cité, ce sera la principauté, et puis la nation, etc. Bon, mais des formes qui ne sont pas impériales. Et il va réussir, je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais il va réussir avec ces formes-là, en tout cas. C'est-à-dire des formes qui sont finalement tout à fait originales parmi les grands ensembles de civilisations, qu'il s'agisse de l'Inde, de la Chine ou de l'islam, les autres grands ensembles de civilisations.
On le voit, cette histoire de l'empire islamique est d'abord l'histoire d'un empire,
oui,
plutôt qu'une histoire proprement de l'islam, en fait.
Absolument, c'est de la religion musulmane. Absolument,
c'est
absolument.
Davantage absolument. L'histoire d'une construction politique, finalement.
Oui, absolument.
Alors, allons un peu plus avant dans votre ouvrage. Il est frappant de voir votre réflexion sur l'histoire et sur la chronologie. Et vous avez un plan qui est très commode. En réalité, vous partagez en quatre étapes,
oui,
en quatre vies.
Ça, quatre vies, oui, en gros.
Les Arabes, 660-780. Ensuite, deuxième vie, que serait le califat, hein, qui se sépare de la guerre et de la religion, c'est des années 790 aux années 900. Une troisième vie, marquée par l'essor d'un Occident musulman. Et une quatrième vie, marquée par l'apparition de ces peuples nouveaux. Vous évoquez dans une introduction tout à fait éclairante de cette deuxième partie, vous hésitez entre une histoire cyclique et une histoire linéaire. Les historiens, souvent, et alors c'est peut-être pour le coup on est intéressé par votre travail dans la mesure où nous recherchons, nous, toujours les ruptures, toujours les innovations, toujours ce qui fait moderne, tout ce qui fait à la page. Et on n'aime pas voir et retrouver l'aspect cyclique de l'histoire. Je crois qu'en Occident, l'un des derniers à avoir plaidé l'histoire cyclique, ça devait être quand même Saint-Augustin. Donc, finalement, ça commence à dater. Est-ce que finalement, dans cette propriété-là, finalement, hein, d'écrire une histoire linéaire qui est marquée aussi par une forme de cycle, n'y a-t-il pas aussi une caractéristique finalement de cet empire islamique, ou est-ce que ça tient davantage, vous, de votre manière d'écrire l'histoire, ou est-ce que vous pensez qu'il y a là, quelque part, in fine, l'un des ressorts essentiels de cet empire islamique qui le distingue, de fait, alors, d'autres formes d'empire et...
De fait, je m'en suis tenu dans la présentation générale, parce que c'était commode, parce que c'est une théorie, ce qui est très rare chez les historiens, je m'en suis tenu à la théorie d'Ibn Khaldoun dans la présentation. Hein. Et c'est lui qui propose ces siècles. Pour une raison simple, je fais un dernier point sur la théorie, c'est donc que les barbares s'emparent du pouvoir, en quelque sorte. Hein, mais ils ne le gardent pas plus d'un siècle. Pourquoi ? Parce qu'ils se civilisent. Et dès lors qu'ils se civilisent, c'est-à-dire, dans les termes d'Ibn Khaldoun, qu'ils se sédentarisent, hein, c'est l'opposition entre bédouins signifiant simplement tribu extérieure à l'État qui refuse de payer l'impôt, qui s'empare du pouvoir dès lors que l'État les a convoqués pour s'emparer des fonctions militaires à l'intérieur de l'Empire. Hein, c'est ça, les bédouins, c'est pas du tout les gens avec des chameaux. Ça peut être des gens avec des chameaux, mais d'une manière générale, c'est tous ceux dont la violence est convoquée par l'Empire pour le défendre et pour le gérer, hein, tout simplement. Lorsque, au bout d'un siècle, ces barbares se sont rapprochés de leurs sujets, au point d'adopter en général la religion et la langue de ces sujets, en oubliant leur langue barbare, songez aux Francs. Hein, les Francs sont un peuple germanique, bien sûr, hein, qui n'ont laissé pour trace que le nom de notre nation, les Français. Mais notre nation ne parle pas la langue des Francs. Elle parle la langue des Latins, enfin des Gallo-Romains. Hein. Elle parle un dialecte de latin que nous parlons toujours, que je suis en train de vous parler là en ce moment. Et des Francs, il ne reste rien. De la même façon, les Francs païens, au moment où ils s'installent en Gaule, se convertissent au christianisme, naturellement. Bon, c'est, dit Ibn Khaldoun, la règle normale du fonctionnement des empires. Hein, les barbares appelés à s'emparer des fonctions militaires, puis des fonctions de souveraineté à l'intérieur des empires, en échange, si j'ose dire, adoptent la civilisation des vaincus, adoptent la civilisation, la langue, la religion des vaincus. C'est d'ailleurs là que l'islam se distingue complètement. Hein, c'est-à-dire, c'est là que l'islam est une exception absolue. Pour lui, Ibn Khaldoun, on reviendra peut-être là-dessus dans un instant, pour lui, Ibn Khaldoun, il y a une forme de linéarité tout au long de ces quatre siècles. Les Arabes ont été les barbares par excellence, et comme barbares par excellence, il est d'origine arabe, hein, et comme barbares par excellence, ils ont construit, précisément parce que leur élan conquérant était extraordinairement violent, puisqu'ils étaient très, très barbares. Hein. Ils ont construit l'empire le plus vaste qui soit, mais peu à peu, ils se sont civilisés, c'est-à-dire ils se sont sédentarisés. Ils ont adopté peu à peu les usages de leurs vaincus. Et par conséquent, peu à peu, ils ont dû, pour assurer les fonctions de violence dans leur empire, faire appel à des peuples de plus en plus lointains, d'abord en prenant ces peuples sous leur protection, c'est-à-dire que ces peuples exerçaient sous l'autorité de califats arabes les fonctions militaires. Hein, ces Turcs, ces Berbères s'en sont satisfaits pendant un siècle ou deux. Et puis ensuite, les dix Berbères et les dix Turcs ont pris le pouvoir. purement et simplement, et ont marginalisé les Arabes et leur califat. Hein. C'est le califat qui est une création des lendemains immédiats du lendemain immédiat de la mort du prophète. C'est ce califat qui, pour Ibn Khaldoun, fait figure d'institution arabe par excellence. Et quand ce califat est marginalisé, et il l'est à partir du XIe siècle, on peut considérer que les Arabes ont perdu le pouvoir, en quelque sorte. C'est le califat qui est l'enseigne du pouvoir arabe, hein, le drapeau du pouvoir arabe dans l'islam, dès lors que ce califat n'existe plus, hein, ou qu'il est totalement marginalisé, qu'il a totalement perdu tout pouvoir. Alors on peut dire qu'une phase nouvelle s'ouvre, où les Arabes ont perdu le pouvoir au profit des Turcs, au profit des Berbères, voire au profit des Francs, hein, bien sûr, c'est-à-dire des Européens, dans la reconquête espagnole et dans les croisades.
Vous revenez beaucoup dans votre ouvrage sur une notion que vous avez rapidement évoquée et qui retrouve dans votre explication sur l'Empire islamique une connotation plus forte, une notion qu'on avait peut-être eu tendance à oublier, qu'on retrouve beaucoup, que vous invoquez beaucoup au moment de la naissance du sunnisme, c'est cette question de la sédentarité.
Voilà.
Et finalement, la sédentarité, moi j'ai étudié de loin l'islam médiéval dans mes études, mais on m'en parlait pas tant que ça. Et quand on lit votre ouvrage, on trouve qu'en réalité, les grands moments d'inflexion de cette histoire de l'Empire islamique sont moins des moments d'inflexion d'interprétation religieuse ou de considération théologique, si je puis dire.
Oui,
à l'inverse, on retrouve finalement toute la force d'une approche très anthropologique qui... Voilà, cette place de la sédentarité, de la sédentarisation, l'émergence aussi du sunnisme et
tout
finalement des différentes branches de l'islam.
Tout à fait. Ce qui est prodigieux prodigieux chez Ibn Khaldoun, c'est qu'un seul principe d'explication, pratiquement celui que je viens de vous donner, c'est-à-dire les peuples perdent leur talent ou leur puissance ou leur violence guerrière au fur et à mesure que passent les générations au profit de la sédentarisation, c'est-à-dire au profit, en effet, hein, c'est-à-dire au profit de l'adoption des usages civilisés de leurs vaincus, hein, de leur peuple, de leur troupeau, en quelque sorte. Peu à peu, les loups ou les chiens-loups se transforment en moutons, hein, peu à peu. Et donc, une part des inflexions majeures de l'histoire de l'islam, en effet, ne tient à cette sédentarisation, et en particulier au moment où interviennent le jeu politico-religieux, hein, des acteurs nouveaux, comme la ville, un pouvoir d'abord qui est détaché, où les fonctions militaires sont détachées des fonctions religieuses, hein, donc intervient un public de clercs, comme on dirait au Moyen-Âge, d'intellectuels, si vous voulez, une caste d'intellectuels, de lettrés, voilà. Puis où intervient la ville comme réalité sociologique, alors réalité sociologique totalement indispensable à l'Empire, hein, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour Ibn Khaldoun, la ville est le point de concentration par excellence, évidemment, de la richesse. Et c'est là que se donnent les progrès économiques qui justifient l'existence de l'Empire. Si il n'y avait pas ces progrès économiques, alors rien ne justifierait évidemment, hein, la dictature, de fait, que l'Empire, la dictature militaire, hein, que l'Empire et la caste militaire qui le domine et qui est d'origine barbare, exercent sur l'immense majorité de la population. De fait, si l'Empire se justifie, c'est que, aux yeux d'Ibn Khaldoun, c'est la seule forme politique capable d'apporter la prospérité à ses peuples. Mais en même temps qu'il apporte la prospérité, la ville intervient comme acteur politique à partir d'un certain seuil d'importance et de concentration, en particulier de la profession, car c'est une véritable profession, c'est un véritable métier, hein, de la profession intellectuelle. Hein. Et le sunnisme est très, très largement, au IXe siècle, la création de la ville. la ville par excellence avec un V majuscule, c'est-à-dire Bagdad. Hein, c'est parce que, bon, la ville, c'est un point que j'essaye de discuter. Bon, il y a des tas de points qui restent évidemment tout à fait obscurs, c'est-à-dire pourquoi Constantinople n'a pas joué dans l'histoire du christianisme un rôle aussi massif que celui que Bagdad joue en ce 9e siècle, en définissant le sunnisme qui va devenir petit à petit la religion de l'ensemble des clercs de l'Empire, de l'ensemble des villes de l'Empire, puis petit à petit la religion majoritaire de l'islam, alors qu'au départ, elle n'était pas la religion choisie. Ça n'était pas la version de l'islam choisie par le palais, ce n'était pas la version de l'islam choisie par le pouvoir. La version de l'islam choisie par le pouvoir, c'était le chiisme. Mais la ville a réussi à vaincre le palais, a réussi à vaincre l'État dans une certaine mesure. Et c'est pour Ibn Khaldoun un des effets de la sédentarisation. C'est-à-dire que cette sédentarisation, petit à petit, elle prive le pouvoir de son tranchant. Il aime beaucoup le mot Chouka en arabe, qui veut dire la pointe, le tranchant. Hein. L'État, petit à petit, à mesure que passent les générations, est de plus en plus faible militairement et il est de plus en plus incertain de son autorité. Et alors que la ville prend de plus en plus d'importance, la ville qu'il a fondée pourtant, hein, et dont il a assuré la prospérité, prend de plus en plus d'importance. C'est ça, précisément, le phénomène de la sédentarisation, hein, les gains de la sédentarité.
Dès lors, finalement, on pourrait penser, puisque c'est l'Empire qui a fait la religion, le paradoxe, enfin, l'un des intérêts que suscite votre ouvrage, c'est que l'Empire islamique, finalement, la religion survit à un empire qui se disloque et qui se disparaît, ce qui le distingue, finalement, d'autres formes impériales qui ont pu connaître. La religion a, oui, a moins... finalement survécu que l'Empire. L'Empire romain a disparu. La religion a survécu, voilà, aussi à travers le christianisme. Voilà, finalement, la, voilà, religion survit à la, voilà, à la distinction. Après, il y a sans doute effectivement la question de l'État qui finalement ici disparaît beaucoup et beaucoup moins présente qu'en Chine, si on veut, voilà, comparer, ou absolument, même en Occident. Alors, voilà. Vous interrogiez sur la comparaison avec l'Occident, finalement, est-ce que ce n'est pas l'État, finalement, l'État ? Parce qu'on considère souvent qu'en Occident, la religion a dominé, mais c'est une erreur. Enfin, le moderniste que je suis vous démontrerait par A plus B que ce n'est pas, oui, la religion, absolument, qui domine depuis le XIIIe siècle, c'est la construction de l'État qui s'impose à la religion, y compris dans la France de la monarchie absolue de Louis XIV, c'est l'État. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de point d'intérêt, de miroir, finalement, de cette place de l'État? Et vous dites que les villes ont pris le pouvoir sur le palais. Finalement, est-ce que l'une des points de comparaison ne serait pas qu'en Europe, c'est le palais qui a gardé le pouvoir? Vous voyez,
sorte de... Tout à fait. Mais justement, ça tient probablement à ce que la structure intime de la politique européenne n'est pas l'Empire. C'est-à-dire que ce phénomène d'affaiblissement de l'État, qui est, aux yeux d'Ibn Khaldoun, absolument, et au total, l'histoire de l'islam lui donne raison, et même dans une certaine mesure, l'histoire de la Chine lui donne raison. Et cet affaiblissement de l'État est pour lui absolument irrémédiable. Hein. C'est l'existence même et le fonctionnement même de l'État qui est fait pour l'expansion de la ville et le rassemblement par l'impôt de la richesse initiale qui permet le développement économique et l'accroissement en particulier des populations. Ce développement, donc, il est inéluctable, il est même souhaitable, évidemment, mais en même temps, l'État s'y tue, se tue à ce développement petit à petit. Et donc, la ville, peu à peu, en effet, l'emporte. Je crois qu'en effet, c'est pas vraiment le cas en Occident, mais ça explique si l'Empire romain répond, et il répond plus ou moins, en tout cas dans les derniers siècles, à la théorie d'Ibn Khaldoun, ça explique les deux ou trois pages que je glisse modestement en conclusion, c'est-à-dire qu'on peut se demander si nos grandes religions, on va dire milliardaires, celles qui ont plus d'un milliard de dévots ou de gens qui sont nés à l'intérieur de ces religions, j'entends le christianisme, l'islam, le bouddhisme, et vous pouvez y annexer l'hindouisme, le cas est un peu plus compliqué parce que là, il n'y a pas eu d'empire, enfin si, il y a eu un empire islamique qui a probablement constitué l'hindouisme contre lui, hein, c'est-à-dire qui a regroupé les forces hindouistes pour lui résister. Hein, et c'est probablement ce qui a créé cette religion. On peut se demander si les trois autres, en tout cas, ne sont pas des traînes d'Empire. Hein, si la traîne de l'Empire, l'héritage de l'Empire, hein, ça n'est pas justement la religion. Hein, c'est la religion chrétienne comme héritier de l'Empire romain, la religion musulmane comme héritier de l'Empire islamique, disparu à partir de la fin du XIe siècle, et dans une certaine mesure, le bouddhisme héritier d'un empire chinois qui se disloque, mais là, effectivement, vous avez raison, l'empire chinois se reconstitue et d'ailleurs expulse le bouddhisme du cœur du pouvoir. Hein, c'est-à-dire que l'Empire se reconstitue sur des principes confucéens à partir des Song, en expulsant le bouddhisme qui avait été l'idéologie dominante, excusez-moi, enfin, c'est un vieux reste de marxisme, l'idéologie dominante dans l'Empire entre le 3e, 4e et le 10e siècle. Hein, voilà.
Alors, je vais vous remercier de votre présentation de ce très bel ouvrage, L'Empire islamique, publié chez Passé Composé. Et je vous remercie. Merci d'être venu. Et bonne soirée à vous.